Connaissez Nessie, le célèbre monstre écossais, mais connaissez-vous les autres monstres qui vivent dans des lacs? Il y en aurait plus de 200 dans le monde, comme Ogopogo, le serpent marin qui hante les eaux du lac Okanagan au Canada. Vous avez certainement entendu parler du Yeti, mais connaissez-vous l'Almasti, le Yeren ou encore le Barmanou, ces hommes sauvages inconnus qui existeraient dans le Caucase, en Chine ou dans les régions montagneuses du Pakistan? Et savez-vous que le Mokele Mbembe est peut-être un dinosaure relique qui survit dans les forêts inexplorées en Centrafrique? Si vous pensez que toutes les espèces animales ont été découvertes sur notre planète, vous risquez d'être surpris. Et si vous n'avez pas peur de vous confronter aux monstres de légende qui recèlent peut-être un fond de vérité, alors bienvenue dans le monde extraordinaire de la cryptozoologie.
Du monstre du Loch Ness au Yeti, sur la piste des créatures mystérieuses. Une série réalisée par Frankistas et Bawandine.
Je vous parle aujourd'hui depuis les montagnes du Caucase, le territoire de l'Almasti, qui n'a jamais, je dis bien, jamais pu à ce jour être photographié ou filmé.
Neuvième épisode, des hommes sauvages poilus partout. Avec dans les rôles principaux, le docteur Marie-Jeanne Kaufmann des hôpitaux de Moscou, grande spécialiste de l'Almasti, l'homme sauvage du Caucase.
Nous n'avons pas de preuves directes de l'existence de l'Almasti, mais nous avons toutes sortes de preuves circonstancielles.
Michel Ballot, chercheur indépendant et cryptozoologue.
L'histoire de l'Almasti est très 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 intéressante. C'est une recherche qui va aboutir, puisqu'on a trop de témoignages.
Et Michel Sartori, le directeur du musée de zoologie de Lausanne.
Imaginons qu'on trouve un homme sauvage. Est-ce que ce serait une découverte incroyable?
Bien sûr. On aurait affaire à une espèce qui est la plus proche de nous, notre cousin le plus proche.
Il est venu la nuit dernière. On n'a pas pu l'apercevoir, mais il a laissé des dizaines de traces.
L'animal, qui était d'abord assis, se leva et marcha, dressé sur les deux jambes, dans ma direction. Il ressemblait à la fois à l'homme et au singe. Encore enfant, j'avais entendu raconter pas mal d'histoires sur les Almasti, les hommes sauvages. Mais je n'y croyais pas. Et voilà maintenant que j'en avais un sous les yeux. Il avait de longs poils, noirs comme ceux d'une chèvre. On avait l'impression qu'il n'avait pas de cou. Sa tête lui paraissait directement soudée aux épaules. De longs cheveux lui pendaient de la tête. L'Almasti se rapprocha et passa à mes côtés. C'était un mâle. Il avait la tête allongée, pointue vers le haut. En marchant, il balançait ses très longs bras, qui lui descendaient jusqu'aux genoux. S'éloignant de moi jusqu'à 200 mètres environ, l'étrange créature traversa le chantier et s'assit de nouveau. Elle resta accroupie pendant 2 ou 3 minutes, ses mains touchant le sol. Après s'être redressée, l'Almasti se dirigea à vive allure vers les buissons, en faisant de si grandes enjambées qu'aucun homme ne serait capable d'en faire de pareilles, surtout en remontant une forte pente. Il se tenait droit, les épaules légèrement voûtées.
Cette déposition a été faite par Ramazan Omarov, le 20 août 1959. Ce jour-là, vers 6 heures du soir, alors qu'il descendait le sentier d'une montagne du Daghestan, dans la partie orientale du Caucase, il s'est donc retrouvé presque face à face avec le fameux Almasti, appelé aussi Captar dans cette région. Cet homme-singe, ou ce singe-homme, bref, ce primate controversé, reste aujourd'hui un problème non résolu pour la cryptozoologie, la discipline qui tente d'étudier les animaux cachés, encore inconnus de la science.
Thank you.
pas de preuves directes de l'existence de l'almastie. Nous n'en avons pas, nous sommes des biologistes, et pour il nous faut être vivant. Mais nous avons toutes sortes de preuves circonstancielles, les descriptions de nos témoins qui sont ignares en matière de paléontologie et qui nous donnent toute une série de symptômes, de critères anatomiques. Par exemple, la visière susorbitale, l'éminence des pommettes, des arcs zygomatiques, la proéminence de la partie du massif facial, l'absence d'éminence montagnaire. Donc, toutes sortes de détails absolument précis, absolument authentiques et qu'ils ne peuvent pas avoir vu.
Marie-Jeanne Kaufmann est la plus grande experte de l'almastie. Elle s'exprimait ici dans les années 90 sur le plateau de l'écran témoin, émission de la RTBF. Pendant 50 ans, cette scientifique franco-russe a traqué ce supposé homme sauvage dans les montagnes du Caucase.
L'almastie, c'est un être qui vivrait essentiellement dans l'Asie centrale.
Michel Ballot, chercheur indépendant et cryptozoologue.
Et les recherches de l'almastie ont été faites essentiellement par Marie-Jeanne Kaufmann, qui vit encore à Paris, qui a près de 100 ans, du reste Marie-Jeanne Kaufmann, qui était ancien chirurgien des hôpitaux de Moscou. L'almastie qui survivrait encore de nos jours dans des zones dans le Caucase a été étudiée par des très grands anthropologues et scientifiques d'après-guerre, comme Boris Porchneff, Dimitri Bayanov, etc., etc. D'après beaucoup de cryptozoologues, l'almastie serait certainement un néandertalien d'une taille d'environ 1m80, avec un torse bombé, des longs bras, des grandes mains, un nez retroussé. Il a une vie nocturne.
Si vous avez écouté l'épisode 5 de cette série sur les créatures mystérieuses, celui consacré à l'homme congelé du Minnesota, vous en savez un peu plus sur la théorie de la survivance d'hommes de Néandertal jusqu'à nos jours. Petit rappel pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi. En 1968, Bernard Heuvelmans, l'inventeur de la cryptozoologie, découvre dans la roulotte d'un forain du Minnesota un spécimen intrigant d'une sorte d'homme-singe conservé dans la glace. Convaincu de son authenticité, Heuvelmans est persuadé d'être face à un néandertalien attardé, comme il explique au micro de Jacques Chancel dans l'émission Radioscopie en 1974.
Peut-être que l'homme de Néandertal est tout près de nous, est encore parmi nous du moins.
J'en ai une certitude absolue, puisque j'ai examiné un spécimen congelé. C'est une très longue histoire, très compliquée. Et j'ai eu l'occasion d'examiner le cadavre d'un de ces hommes qui avait été ramené du Vietnam par un moyen tout à fait frauduleux, ce qui a fait que, comme la mafia y était mêlée d'une part, le CIA de l'autre, on a fait disparaître ce cadavre. Et on n'en reparle plus.
Suite à cette découverte controversée, pour Bernard Heuvelmans, mais aussi pour d'autres chercheurs russes comme Boris Porchneff, il ne fait aucun doute que des hommes de Néandertal vivent encore à travers l'Asie, du Caucase au Vietnam, en passant par le Pamir et la Mongolie. Et l'almastie serait un de ces Néandertaliens qui aurait survécu jusqu'à maintenant. Il faut bien reconnaître que tous les témoignages concernant l'almastie, recueillis dans la région du Caucase depuis très longtemps, font état d'une créature qui semble plus proche de l'homme que du primate. Comme dans cette histoire extraordinaire survenue lors de la Deuxième Guerre mondiale pendant l'hiver 1941. Le lieutenant-colonel Vasguen Karepitian était un médecin neuropathologiste attaché à un bataillon de tirailleurs cantonné à cette époque dans un village daghestanais des hautes montagnes. Un jour, il est appelé par les villageois qui venaient de capturer une sorte d'homme sauvage couvert de poils et incapable de parler. Bref, un almastie. Voici les souvenirs du lieutenant-colonel consignés dans un procès-verbal.
Voilà 17 ans que je n'arrive pas à comprendre quelque chose que j'ai vu autrefois. Je revois encore cet homme, comme s'il se trouvait sous mes yeux en ce moment même. De sexe masculin, nu de la tête aux pieds. Toutes ses formes étaient humaines. Mais la peau de sa poitrine, de son dos et de ses épaules était couverte de poils broussailleux de couleur brun foncé. Les mains assez grossières était orné de poils plus clairsemés. Les paumes et la plante des pieds en étaient tout à fait dénuées. Sur la tête, en revanche, les cheveux étaient très longs. Ils descendaient sur les épaules et couvraient partiellement le front. Il n'avait ni barbe ni moustache. Tout le visage ne présentait qu'une pilosité très légère. L'homme se tenait debout, tel un Hercule faisant saillir sa cage thoracique puissante et développée. Aux mains, on remarquait des doigts très épais et solides, d'une longueur insolite. Le visage était d'une couleur extraordinairement foncée. Les sourcils étaient très épais. Au-dessous d'eux, les yeux étaient profondément enfoncés. Mais le regard de ses yeux n'exprimait rien. Il était purement bestial. L'être en question n'avait pas la moindre réaction humaine. Il n'émettait que des beuglements nasillards.
Ce sont des résidus de la nappe néandertalienne qui couvrait toute la région paléarctique, donc depuis les Pyrénées, où il y en a eu encore jusqu'au XVIIe siècle, jusqu'en Chine, Vietnam et peut-être au-delà.
Bernard Heuvelmans, père de la cryptozoologie.
Ils sont descendus le long de certains fleuves là-bas. Et ce ne sont pas des populations, ce sont des individus épars. Ce sont des êtres qui vivent absolument comme des animaux, qui ne connaissent ni le feu, ni le langage, et qui sont pratiquement toujours solitaires. On connaît les époques où ils se rassemblent pour s'accoupler, puis la femelle reste avec son petit pendant un certain nombre de mois, puis lorsqu'ils grandissent, on connaît les époques qui se réunissent par groupes d'adolescents, et puis ils s'éparpillent et deviennent solitaires.
Nous savons de nos jours que des Néandertaliens caucasiens, mais même croates et espagnols, ont subsisté jusqu'il y a 39 000 ans. Par contre, leur survivance jusqu'à notre époque contemporaine ne convainc pas tout le monde.
L'idée de la survivance de populations néandertaliennes, ça me semblait être une idée extrêmement pertinente.
Michel Reynal, cryptozoologue confirmé.
Depuis, j'ai été beaucoup moins convaincu. On sait aujourd'hui que l'homme de Néandertal tel qu'on l'imaginait, c'était pas la brute épaisse. On sait aujourd'hui que les Néandertaliens avaient une industrie déjà sophistiquée, lithique, de pierre, qu'ils avaient déjà des considérations artistiques, qu'ils ensevelissaient leurs morts, ils avaient une vie sociale extrêmement complexe et développée, etc. Alors bon, certains auraient pu régresser et abandonner tout ça. Ma foi, l'essentiel, c'est de survivre. Donc ils en seraient revenus à un stade purement animal, en quelque sorte.
Laissons la parole à Marie-Jeanne Kaufmann, celle qui connaît le mieux cet homme sauvage, cet Almasty. Après ses expéditions et ses recherches étalées sur 50 ans, cette ex-présidente de la Société russe de cryptozoologie défend ses théories concernant ce cryptide bipède énigmatique sur un plateau TV de la RTBF dans les années 90.
Nous avons aujourd'hui, de par le monde, environ 4 milliers de témoignages de personnes dignes de foi qui nous décrivent ces êtres bipèdes, velus, d'aspect hominoïde, dépourvus de langage. Et sur ces 4 milliers de témoignages, environ la moitié provient du territoire de l'Union soviétique, c'est-à-dire environ 2000. Qui concerne aussi bien les régions nordiques, l'Oural, la Sibérie, la Taïga, et aussi les régions montagneuses qui sont nombreuses en Russie, le Tien Shan, le Pamir et le Caucase. J'ai fait deux expéditions au Pamir qui ont rapporté aussi des résultats très intéressants. Au Caucase, nous disposons d'environ 500 témoignages. Alors, il faut dire que tous nos témoins ou les témoins des autres chercheurs en dehors de l'URSS appartiennent à des milieux culturels totalement différents, totalement étrangers l'un à l'autre, comme le Caucase et le Canada, par exemple, ou la Mongolie et l'Australie. Ils sont séparés par d'immenses territoires, ces témoins.
Et bien entendu, Comme pour le Yeti ou le Bigfoot, Marie-Jeanne Kaufmann a pu observer, photographier et effectuer des moulages d'empreintes d'almastie sur le terrain.
C'est un pied qui n'est pas tellement grand, mais qui est très large et qui surtout frappe par sa mobilité, la mobilité de ses parties constituantes. Ainsi, vous avez ici le même individu. J'offre ça à l'expertise du professeur Coppaz. Vous avez ici un même individu. C'est une série d'empreintes sur... il y avait 12-14 empreintes, toute une piste. Et à un certain moment, il a glissé. Est-ce qu'on pourrait le montrer ?
Oui, on les voit, on les voit.
À un certain moment, il a glissé. Et immédiatement, son pied de presque humain, si on ne compte pas la platypodie, c'est-à-dire la platitude de la sole plantaire, alors le pouce, regardez où il est parti, son pied s'est implanté dans la terre.
Par contre, il n'existe aucune photo ni aucun film d'almastie.
Voyez-vous un cultivateur partir pour son champ, un bûcheron partir dans sa forêt bardé d'appareils de photos. À qui voulez-vous attendre un document photographique ? Ce qui fait l'intérêt de cette créature, c'est que morphologiquement, c'est un homme. Enfin, à très peu de choses près, un homo, disons. Enfin, il est trop tôt de parler d'un néandertalien, ne serait-ce que d'ailleurs à cause de ses canines. Tout l'intérêt de cette créature, c'est que ça n'est plus un animal, et ça n'est quand même pas un homme.
Aux yeux de tous les cryptozoologues de la planète, Marie-Jeanne Kaufmann est peut-être celle qui était la plus près d'aboutir à quelque chose. Il s'en est fallu d'un cheveu pour qu'elle arrive à prouver l'existence de son almastie.
Elle a des empreintes de pieds.
Éric Joie, naturaliste et cryptozoologue.
Elle a eu des moulages, elle a eu des restes alimentaires, elle a eu surtout beaucoup de témoignages de gens qui ne se connaissaient pas, de peuples différents, qui parlaient des langues différentes. Tout ça se recoupait selon elle, mais elle n'a jamais pu en observer un. Il n'y est jamais arrivé. Elle est arrivée plusieurs fois le lendemain d'une observation. Ah, tu arrives aujourd'hui, mais hier, il y a un tel qui a observé un capteur ou un almastie, justement à tel endroit, au ruisseau là-bas, à un kilomètre. Et j'étais arrivé un jour trop tard. Et les gens disaient dans le cru, on le connaît bien, mais malheureusement, on en voit de moins en moins. Pourquoi ? Parce que Staline, après la guerre, a déporté des populations du Caucase. Or, il semblerait bien que l'almastie soit un commensal de l'être humain, donc il vit aux abords de l'être humain, comme certains animaux que nous avons chez nous aussi. Le rat, où il y a l'être humain, il y a des rats. Prends un exemple comme ça. Donc, il vivait aux abords de l'être humain, il venait piller les charniers. T'as un veau qui est mort, ben tu le jettes sur le fumier. Ben, il venait récupérer la viande. D'après les témoins, il venait récupérer des restes de nourriture qui étaient jetés, des fans de légumes et des trucs comme ça. Enfin, tout ce qu'il pouvait trouver comme alimentaire. Ce que font les animaux. Et ils viennent fouiller les décharges. Hein. On connaît bien les chiens qui viennent fouiller les décharges. On connaît bien. Ben, l'almastie faisait la même chose. Quand l'humain n'est plus là, l'almastie aurait disparu dans certaines régions. Ça, c'était son hypothèse. Peut-être que les conditions environnementales ont changé aussi, c'est pas bien défini. Même beaucoup de témoins disent « mon père en voyait souvent, mon grand-père en voyait toutes les semaines. À la rivière, il en croisait trois. » Et puis ils disaient « mais tu ne connais pas l'animal ?»« Ben non. » »« Ah ! » C'est comme si quelqu'un nous disait à nous « on connaît pas le sanglier, on vient enquêter sur le sanglier ou le renard. » Nous, on dirait « on connaissait pas un sanglier, un renard, vous savez pas ce que c'est ? » ?»« Comment dans ton pays tu ne sais pas ce que c'est ? » ?»« Parce que nous, on en voit tous les jours. »
Contrairement à ce que pensent la plupart de mes confrères scientifiques, la Terre n'a pas encore délivré tous ses secrets et ses merveilles. En ce qui concerne l'almastie, ce n'est plus, j'espère, qu'une question d'heure.
Produit en 2008 et réalisé par Jacques Mitch, il est certain que le téléfilm « Almastie, la dernière expédition » s'inspire des travaux de Marie-Jeanne Kaufmann, qui reste encore à ce jour la plus grande spécialiste de l'homme sauvage caucasien. Mais malgré la rigueur de ses travaux, elle n'est quand même jamais parvenue à démontrer l'existence de cet être extraordinaire. Pourtant, même avec ce manque de preuves, de nombreux scientifiques et chercheurs actuels très sérieux continuent à penser que l'almastie représente une énigme zoologique décidément bien intrigante.
Clairement, ce dossier est troublant pour deux raisons.
Benoît Grison, biologiste et sociologue des sciences.
D'un côté, les témoignages sont de grande qualité, très bien recoupés, Et dans des zones de montagne, de haute altitude et de démographie humaine très faible qui le rendent crédible. Le dossier est crédible d'un point de vue testimonial, au niveau donc des témoignages et de leur qualité, de la finesse d'observation de description qui va beaucoup plus loin par exemple que celle des témoins même crédibles de Bigfoot. Le dossier est crédible écologiquement, biogéographiquement. On pourrait penser qu'un grand primate raréfié serait réfugié dans ces montagnes du Caucase et d'Asie centrale. Par contre, le dossier est pas seulement troublant par sa crédibilité. Il est plus profondément troublant par le fait que, contrairement au Yeti, contrairement au Bigfoot, on vous décrit pas un grand singe. On vous décrit un être qui, si on prend au sérieux ces milliers de témoignages recoupés au fil du temps, serait un hominien. Donc, un être qui serait un cousin proche, qui serait néanmoins couvert de poils, mais qui serait parfaitement bifède, qui serait un cousin proche de l'Homo sapiens, mais couvert de poils et dépourvu de langage.
De quoi parlent les gens ?
Éric Buffetot, paléontologue et chercheur au CNRS.
Est-ce qu'ils parlent d'un être réel ou est-ce que ça fait partie plutôt du folklore ? C'est là qu'on ne sait plus très bien où on est, de quel côté de la barrière on se trouve.
Mais les populations locales te disent un esprit ? Ça laisse pas des empreintes de pied, hein.
Éric Joie, naturaliste et cryptozoologue.
Un esprit, ça vient pas la nuit retourner notre jardin, ça vient pas enlever nos veaux dans les prairies. Et on dit oui, mais c'est un loup. Oui, mais le loup, il laisse des empreintes aussi, ça on connaît les empreintes du loup. C'est pas des empreintes de loup qu'on a vues, ce sont des empreintes de type humain.
Marie-Jeanne Kaufmann, c'est une dame dont on ne peut pas soupçonner l'honnêteté.
Éric Buffetot.
C'est quelqu'un de très sincère et qui a fait des études très poussées là-dessus, recueilli des témoignages et autres, qui a mené des études qui sont rigoureuses.
Elle a eu dans son équipe un zoologiste, Pachenko, qui en a observé un de près.
Éric Joie.
C'est dans les années 80. On lui avait signalé qu'un almasti venait dans les écuries, dans une ferme, venait tresser les crinières des chevaux. Bizarre. Et il se met à l'affût avec un appareil photo. Il a un appareil photo. Le seul problème, c'est qu'il n'avait pas trouvé de pellicule. On est à l'époque soviétique. Les pellicules, d'après Marie-Jeanne, ça ne se trouve pas à tous les coins de rue comme chez vous. Mais il dit qu'à un certain moment, en pleine nuit, il va arriver ce qu'il considère comme un jeune mâle, arriver par une ouverture, l'animal descend, puis il s'immobilise, regarde vers l'endroit où était caché Panchenko, ressaute sur la poutrelle et ressort par l'ouverture d'où il était arrivé. Et donc Panchenko l'a pu le décrire comme étant un hominidé, bipède, velu, effectivement, avec des longs cheveux, enfin bon. Ça, c'est un témoignage qui, pour Marie-Jeanne, est tout à fait crédible, vu que le gars faisait partie de son équipe et était zoologiste en plus.
Alors, évidemment, c'est pas très facile à admettre la survivance d'un de nos cousins proches, j'entends.
Benoît Grison, biologiste et sociologue des sciences.
Bon, en supposant qu'on envisage un instant sans tabou, parce qu'après tout, effectivement, il existe des taxons Lazare, des représentants de groupes éteints qui peuvent survivre par petites poches. Si on envisage théoriquement sans tabou cette possibilité, ça peut pas être un homme de Néandertal. Parce qu'on sait qu'il avait une culture technique extrêmement sophistiquée, qui se décorait le corps avec de l'ocre, qui s'ornait le corps de plumes, qu'il avait une culture technologique très complexe. D'ailleurs, il y a eu certainement des échanges technologiques avec l'Homo sapiens. L'homme de Denisova, qu'on ne connaît guère pour l'instant, mais qu'on connaît à travers son ADN, dans certains restes, notamment d'os de la main, était certainement aussi trop sophistiqué par la culture, et d'ailleurs il a beaucoup interagi avec l'Homo sapiens avec lesquels il s'est croisé aussi. Et s'agit-il d'un hominien plus archaïque ? Peut-être. Il faut quand même souligner que un hominien archaïque, donc un de nos cousins proches, qui a bien été étudié par les paléontologues et paléanthropologues chinois, l'homme de la grotte du Cerf Rouge n'a disparu qu'il y a 14 000 ans de ça. C'est-à-dire il y a 14 000 ans de ça en Chine, alors que Néandertal avait disparu déjà depuis une quinzaine de milliers d'années, et qu'on aurait pu croire que nous étions tous seuls, nous, Homo sapiens, parmi les hominiens sur cette terre, eh bien, il y avait encore l'homme du cerf rouge, comme on l'a démontré il y a quelques années, un hominien apparenté à l'homme, mais bien différent d'Homo sapiens, qui vivait en Chine. Donc, évidemment, le fait qu'un cousin hominien proche de nous, ce fameux homme de la grotte du cerf rouge, ait vécu il y a encore 14 000 ans de ça en Chine, ne permet pas d'exclure complètement qu'il y ait eu peut-être survivance de certaines populations hominiennes non homo sapiens dans les montagnes du Caucase et de l'Hindoukou jusqu'à une période historique assez récente, et qu'elle ait laissé cette survivance des souvenirs dans les populations de montagnards. Peut-être.
Ce qui est étonnant aussi, c'est qu'on a dans ces régions-là, qui sont quand même des régions assez reculées, hein. On ne parle pas de grandes métropoles avec des autoroutes et des voitures, non, ça se passe vraiment en pleine nature. Il y a des empreintes et des moulages d'empreintes pour l'almastie. On imagine comme un mâle, dans ce coin-là ou dans ces régions-là, des blagues ou une confrérie des francs-maçons du Bigfoot, comme il pourrait peut-être y en avoir une aux États-Unis pour faire des blagues. Là-bas, ça semble quand même hautement improbable, non?
Oui, ça fait peu crédible, effectivement. Après, il y a quand même certaines de ces empreintes dont il y a des raisons de douter ou qui ont été caractérisées comme des canulars. Mais il y en a d'autres qui restent plus troublantes. De même, il y a eu des poils relevés qui ont résisté à l'analyse. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, hein, les spécialistes des poils ne savent jamais tout sur les poils de tous les mammifères. Mais début des années 1990, à Moscou, des spécialistes des poils ont étudié des poils d'almastie qui ont résisté à l'analyse biochimique dans le sens où, en étudiant les protéines du dit poil, on n'a pas trouvé en fait une séquence de protéines d'espèces connues dans les protéines de ce poil. Mais bon, c'était le début des années 1990. À l'époque, on ne savait pas étudier l'ADN des poils, lequel est enfermé dans le canal médullaire des poils. Et je doute, malheureusement, comme souvent les sujets marginaux comme ça, qu'on ait gardé durablement ce spécimen. Mais si, par hasard, il existait encore, il faudrait le réanalyser avec des méthodes modernes pour voir si vraiment il n'est pas du tout identifiable au niveau de l'ADN. Puisqu'à l'époque, on ne savait pas étudier l'ADN des poils. Sauf quand on avait bien sûr une cellule d'épiderme accrochée au poil. Mais on n'avait pas pensé, dans les années 90, comme on a pensé ces 10 dernières années, à aller à l'intérieur du poil où il y a des traces d'ADN. Donc, c'est toujours aussi le côté frustrant qu'on n'ait pas su identifier ce poil et d'excellents spécialistes moscovites, et qui en plus n'avaient aucun intérêt pour la cryptozoologie, ne prouve pas absolument que c'était un animal inconnu.
Encore plus étonnant, l'almastie aurait colonisé d'autres régions que le Caucase. On le retrouve ailleurs, mais cette fois sous un autre nom.
Ce dossier de l'almastie, pris au sens large, concerne deux zones.
Benoît Grison.
D'une part, la région caucasienne, et particulièrement ce qu'on appelait autrefois la Kabarda ou Kabardina, la république de Kabardino-Balkarie, hein, qui est pas loin du mont Elbrouz, etc., dans la région caucasienne. Et puis, ces montagnes, ces hautes altitudes de l'Hindoukouche, où Jordi Magraner a étudié aussi un dossier comparable à celui de l'almastie du Caucase, c'est-à-dire le Barmanou, qu'on peut traduire de façon un peu laxiste par homme sauvage, mais ça veut dire homme fort surtout, homme costaud. Et alors, deux chercheurs sont illustrés dans ce dossier-là de primates inconnus supposés des montagnes du Caucase et d'Asie centrale. C'est d'une part Marie-Jeanne Kaufmann, qui a 101 ans, qui vit toujours à Paris. Et puis Jordi Magraner, qui lui n'a pas travaillé au Caucase comme Marie-Jeanne, mais donc dans l'Hindoukouche, donc au nord du Pakistan, et qui malheureusement est décédé. Il s'est fait tuer par des islamistes, hein, c'est malheureusement tristement d'actualité, il y a plus de 20 ans de ça.
Jordi Magraner a sans doute été assassiné par des talibans au mois d'août 2002, alors qu'il séjournait dans le village de Krakal, situé dans la vallée du Boumbouret au Pakistan. Il est le chercheur qui a investigué le plus sur le Barmanou, l'homme sauvage pakistanais. Il avait été interrogé par la RTBF dans les années 90 à propos de ses recherches.
Dans les témoignages qu'on a, les hominidés présents en Asie ne parlent pas. Ils expriment...
Aux hommes sauvages, ils ne parlent pas.
Oui, ils ne parlent pas. Il n'y a pas de langage articulé, disons. Oui. Ils émettent des sons, mais il n'y a pas de langage articulé. Et c'est là que ça devient très intéressant, parce qu'anatomiquement, ils sont très 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 proches de nous. Donc, éventuellement, ils auraient un dispositif qui serait proche du nôtre. Mais qu'est-ce qui fait la différence, justement? Qu'est-ce qui permet... Enfin, pourquoi ne parle-t-il pas et nous, on parle? Donc, c'est là, je pense, que se situe la différence, et que le langage, effectivement, définit bien l'homme. Ce que j'ai essayé de faire, c'est une étude purement zoologique, c'est-à-dire essayer de traiter ça comme on traite n'importe quelle espèce animale. Donc il y a moins longtemps que Marie-Jeanne que je suis sur le terrain, c'est depuis fin 87 seulement. Et j'ai fait seulement 2 missions, mais j'ai essayé de déterminer, de faire ressortir les critères disons, morphologiques, c'est-à-dire l'aspect, l'écologie et l'éthologie, c'est-à-dire le comportement de ces êtres-là. Et effectivement, bon, par rapport à ce qu'a fait Marie-Jeanne Kaufmann dans le Caucase, ça se recoupe.
Ce qui est extraordinaire avec le barmanou de Jordi Magraner, c'est qu'il semble correspondre en tout point au soi-disant homme sauvage congelé qui était exposé dans les foires du Minnesota en 1968. Bernard Heuvelmans, l'éminent cryptozoologue, l'avait longuement étudié et photographié pour ensuite essayer de reconstituer un portrait robot de cette étrange créature qu'il avait appelé l'homme pongoïde.
Ceci est le décryptage grandeur nature de cette photo-ci, composite faite de 4 photos différentes, donc de cet homme néandertalien pongoïde, c'est-à-dire à apparence d'homme de singe ou d'anthropoïde. Vous y voyez tous les détails, j'insiste bien, ce n'est pas une conception d'artiste, c'est un décryptage fait d'après les photos. Vous voyez cette face étrange avec ce nez très relevé, qui n'existe en aucune race humaine actuelle, les mains aux doigts très allongés, qui sont des mains d'un être qui doit ramasser des herbes, arracher des racines peut-être, les orteils retournés vers le bas d'un escaladeur de rochers, le pénis peut-être celui semblable au pénis rictus des Bushmen, vous voyez ce thorax extrêmement puissant. Il ne mesure que 1m82-83, mais c'est cette abondance de poils qu'il fait paraître tellement énorme et tellement effrayant pour ceux qu'il rencontre.
Dans le travail que j'ai fait,
Jordi Magraner, zoologue spécialiste du barmanou.
Ce qui est intéressant, c'est que tous les témoins à qui j'ai présenté une série de ce que j'appelle des repères photographiques où il y avait de tout, des anthropoïdes, des reconstitutions d'hominidés reliques et des reconstitutions du Yeti, Gigantopithèque, etc. Ils ont toujours systématiquement choisi et sans hésitation, c'est ça qui est intéressant, la reconstitution, non pas ce qu'on a montré là, mais la reconstitution à l'état vivant de l'homme pongoïde, et immédiatement, soit la reconstitution complète ou soit la tête. C'est frappant puisque quoi que l'on pense de cet homme congelé, qu'il existait ou pas, que ce soit un vrai ou un faux, Heuvelmans a donné une série de caractères descriptifs qu'on retrouve sur le terrain en zoologie. Quand on retrouve ces caractères sur un ensemble d'individus, on appelle ça des critères de détermination et on les retrouve sur le terrain.
C'est dingue, effectivement.
Éric Buffetot, paléontologue et chercheur au CNRS.
D'un autre côté, il correspond bien à la description qui est donnée de ces hommes sauvages d'Asie centrale, parce que ces êtres sont décrits pas comme vraiment des singes, mais comme des hommes couverts de poils et qui ont des comportements relativement humains. Et ça colle assez bien avec, effectivement, la reconstitution de l'homme congelé du Minnesota. Donc finalement, ça se tient assez, mais ça a conduit à se poser la question, qu'est-ce que c'est que ces hommes sauvages que les gens d'Asie centrale ou du Caucase prétendent voir, et ça depuis des centaines d'années en fait.
Exactement comme Marie-Jeanne Kaufmann qui cherchait l'almastie dans le Caucase, Jordi Magraner va chercher le barmanou dans les régions les plus éloignées et difficiles d'accès du Pakistan.
Vous pensez tellement qu'il existe que vous êtes prêt à aller passer 5 ans de votre vie dans ces montagnes du Pakistan à manger des racines et des lézards pour pouvoir le photographier.
Oui, c'est-à-dire que moi, il faut procéder par étapes. Moi, d'abord, j'ai dégrossi le terrain. Il fallait connaître le milieu, la faune, la flore et les gens qui habitent dans ces régions-là. Exploiter les témoignages, localiser les zones intéressantes. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est essayer de concrétiser un contact.
Voilà, nous voyons là, voilà le lieu. C'est là où il vivrait.
Voilà, il y a, dans la zone où on était, il y a deux types de milieux. C'est ce qu'on a vu, les forêts de cèdres ou de sapins, ou la partie nord plus haute, à partir de 4000 mètres et plus, qui est dénudée avec des fonds de vallée très verdoyants.
Voilà, je ne sais pas si on voit très bien. C'est le dessin.
Là, c'est un
dessin de la tête.
Dessin de la tête très détaillé d'observation qui a duré 2 heures de la part d'un berger. Ce sont des sociétés de tradition orale qui ont coup d'œil, si je peux dire, qui observent très très bien. On voit très bien la dentition. Voilà le berger qui choisit la reconstitution de l'homme pongoïde comme repère. Un autre individu aussi, par contre cheveux courts, mais plus vieux, avec une poitrine qui avait du blanc sur la poitrine, qui présentait même certaines infirmités. À l'étage subalpin, ici, qui a été vu à l'étage subalpin, au pied d'un épicéa. Voilà.
C'est là qu'on l'a vu.
Voilà, c'est un épicéa dont les basses branches constituaient une espèce de hutte dont on pouvait parfaitement rentrer. Ça, c'est un cas plus intéressant. Il s'agit d'une femelle qui devait certainement avoir perdu son jeune et qui a pris un des enfants. On est arrivé à peu près une semaine après, on a enquêté. Et ça s'est produit dans ce petit village du nord, tout près du village, en plein milieu de journée. Mmh. Alors on pense qu'elle avait dû perdre son jeune et qu'elle a tenté de substituer, de la perdre son jeune. Là, il s'agit d'un jeune, par contre, qui faisait à peu près 1m10, qui a été pratiquement battu par un berger qui est ici, on est en train de l'interroger, dont il a pu bien observer le comportement de défense. Il mettait ses mains en avant pour se servir de ses griffes. De ses ongles, pardon, pas des griffes. Oui. Là, on voit le pied, qui est un pied pas très long, effectivement, mais qui est plutôt large, qui est adapté à la montagne. Pour son régime alimentaire, il est à dominante. C'est une dominante végétarienne, essentiellement des ols sauvages, comme on a vu, mais il peut également ramasser des petits animaux, comme des agames qui abondent, ou des jeunes marmottes.
C'est ce qu'ils mangent, donc ils mangent
tout. C'est ce qu'ils mangent, c'est-à-dire tout ce que les témoins ont vu dans leur comportement, ou des larves d'insectes, ou d'autres petits mammifères, comme ici des picas, qui sont des petits lapins de rocher.
Et le revoilà.
Et voici donc la reconstitution de l'homme pongoïde que tous les témoins choisissaient systématiquement.
Et donc vous espérez bien pouvoir le photographier et à la limite le capturer.
Oui, c'est-à-dire qu'on va essayer d'abord d'essayer de le photographier ou de le filmer, et puis essayer de le capturer pour, comme on dit, prélever un petit peu de matériel biologique pour voir ce que c'est, éventuellement le radiographier.
Est-ce qu'il est agressif ?
D'après les témoignages, il semble que non. Hein. Il n'est pas agressif. Il a une certaine attirance qu'on observe dans certains témoignages ou même dans ce que véhiculent les gens pour les femmes. Mmh. Humaine, mais donc sinon il n'est pas agressif, hein, c'est-à-dire que la simple vue d'un homme, il fuit.
L'assassinat de Jordi Magraner a malheureusement stoppé brutalement les recherches sur le Barmanou dans cette région. Mais son existence, comme celle de l'Almasti, s'il était avéré, aussi étonnante qu'elle soit, ne serait pas une aberration scientifique. En effet, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous sommes les uniques représentants de notre espèce. Auparavant, l'homme n'a jamais été seul. Différentes espèces d'hommes ont toujours vécu ensemble sur Terre. Par exemple, l'Homo sapiens et l'homme de Néandertal. Vous me dites si je me trompe, parce que je suis pas du tout un spécialiste de la paléontologie et de la préhistoire, mais moi, quand j'étais petit à l'école, on me montrait le beau dessin, on voyait un singe qui marchait à 4 pattes, puis il se mettait debout, puis il avait une torche en main avec du feu, et puis il était tout beau, et il avançait avec une belle barbe, et c'était nous. Or, ça, on sait aujourd'hui, enfin, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Ça s'est passé, c'est une évolution arborescente. Et donc, ce que le grand public ne sait peut-être pas, c'est qu'il y a eu, à un moment donné, sur Terre, plusieurs espèces d'hommes différentes en même temps.
Oui, oui.
Michel Sartori, directeur du musée de zoologie de Lausanne.
Oui, oui, il y a eu une époque où il y avait 3 à 4 espèces d'hommes. Plus, même si on va chercher du côté de l'Asie ou de l'Extrême-Orient, où il y avait encore l'homme de Flores, l'homme de Pékin. Donc rien qu'en Europe de l'Ouest, en Europe, on avait l'homme de Néandertal, le nôtre. On avait l'homme de Denisov en Sibérie. Oui, il fut un moment où il y avait en tout cas 4-5 espèces d'hominides sur cette planète. Oui.
Et donc, peut-être qu'il y en a qui ont survécu, cachés quelque part, ou qui ont fui la civilisation, et qui, parce qu'ils ont peur de nous. Et voilà, c'est ça en fait.
Oui, voilà, bien sûr. Alors oui, bien sûr, il y a peut-être des poches reliques où il y a ces espèces qui existent. Tout est possible. C'est juste ce que vous dites. c'est potentiellement possible qu'une autre espèce du genre Homo soit encore présente sur cette Terre. Et c'est vrai que, en tout cas, les travaux, que ce soit de Marie-Jeanne Kaufmann ou de Jordi McRaner, sont sérieux. C'est vrai que ce qu'ils ont trouvé est parfois un peu surprenant, parce qu'il y a des concordances de signalements ou de descriptions de ces êtres entre des vallées suffisamment éloignées, en tout cas pour que personne ne puisse, en fin de compte, passer d'une vallée à l'autre ou y communiquer l'information. Donc il y a des concordances qui sont surprenantes. Je suis le premier à le reconnaître. Mais d'un autre côté, trouver un barmanou, ce serait génial. Mais le problème, c'est que si le barmanou existe, il doit y en avoir à peu près entre 200 et 500 individus. Mmh. Et c'est toujours un peu le problème, la cryptozoologie. On cherche le monstre du Loch Ness, mais le monstre du Loch Ness tout seul, il peut pas vivre. Donc il faudrait une population. Enfin, c'est des problèmes d'écologie des populations animales qui font qu'en fin de compte, on n'est jamais avec un spécimen. Ça, c'est dans le monde perdu, peut-être, qu'on trouve ce genre de choses. Mais en biologie et en zoologie, on parle de population. Donc le barmanou ou le yeti ou le sasquatch, c'est pas un individu qu'on cherche. On cherche des populations, des familles entières. Et ça, pour l'instant, on les a pas trouvés. Il y en a non plus jamais vraiment trouvé de traces de rassemblement ou de traces multiples. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a un côté très dérangeant.
Alors, il y a une hypothèse alternative qu'a souvent envisagée Yves Coppin, c'est que je trouve très intéressante parce que quand même plus vraisemblable.
Benoît Grison, biologiste et sociologue des sciences.
C'est qu'il s'agisse d'un grand singe, mais de type asiatique, et qui, par convergence, ait une allure un peu hominienne. Un grand singe qui soit pas un hominien, mais qui soit éventuellement bipède, c'est pas impossible. Ça reste un des dossiers les plus troublants. Troublant positivement, parce que la qualité des données est excellente. Mais troublant aussi parce que ça suggère un hominien qui aurait survécu en période historique aux côtés de l'homo sapiens que nous sommes. Et ça nous remue, y compris fantasmatiquement, parce que là, ça poserait le problème posé par Vercors jadiste dans Les animaux dénaturés. Puisque si ce barmanou ou cet almasti était bien un hominien survivant en parallèle de notre espèce en période historique pendant certains temps avant d'éventuellement disparaître, il n'aurait pas eu la parole. Alors était-il un animal? Était-il un être humain au sens philosophique? S'il a existé.
Est-ce qu'on le met dans un hôtel ou dans un zoo? C'est ça que vous voulez dire?
C'est ça, tout à fait. Voilà la vieille interrogation de Vercors. Si c'était un hominien, là, il y aurait des implications philosophiques sur notre vision de ce qu'est être humain. Déjà que beaucoup de législateurs plaident en fonction des capacités cognitives extraordinaires du bonobo, du chimpanzé dit ordinaire ou du gorille, qu'on les traite avec la même éthique que des humains. Il y a certains législateurs qui posent cette problématique, qu'on les suive ou qu'on ne les suive pas. Mais si un almasti existait au sens dominien et non pas au sens d'un grand singe qui aurait pris par convergence une locomotion bipède, alors là, ça poserait des problèmes assez abyssaux d'un point de vue éthique.
Qu'on ne serait plus tout seul à dominer le monde.
Éric Joye, naturaliste et cryptozoologue.
Et puis bon, ça bouleverserait donc les idées de la religion. Il faudrait tout remettre en question, toute la paléontologie, la remettre en question. Toute la paléoanthropologie, il faudrait remettre ça en question aussi, puisqu'on ne serait plus seul. Toute la philosophie, et sans doute beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et j'ose faire une comparaison quelque part, et comparaison n'est pas raison, comme on sait. Ce serait peut-être un bouleversement aussi dramatique, enfin pas dramatique, aussi profond, que de rencontrer des extraterrestres sur une autre planète. On n'est plus seul dans l'univers, on n'est plus seul sur la Terre.
Cette affaire des hommes sauvages est un des dossiers sur lequel les cryptozoologues passionnés fondent le plus d'espoir, car il semble, malgré son manque de preuves concrètes, être l'un des plus solides.
L'histoire de l'almasti qui vivrait dans les montagnes du Caucase est très 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 intéressante.
Michel Ballot, chercheur indépendant et cryptozoologue.
C'est une recherche qui va certainement, dans les années à venir, aboutir, puisqu'on a trop de témoignages venant essentiellement des populations locales qui vivent proches de ces êtres et qui les connaissent parfaitement. Il y a des êtres encore bipèdes, inconnus de la science officielle, mais connus des populations locales. Vous avez le Yéti malayen, qui est connu en Sibérie, qui est connu en Chine sous le nom de Yeren, qui est connu même jusqu'en Malaisie. On parle en Malaisie du Bigfoot du genre. En Malaisie, on l'appelle le Jaranini. Il y a eu dans certaines forêts de Malaisie beaucoup de témoignages. Donc vous avez cet être géant, ce Yéti, qui ne se cantonne pas spécifiquement dans la zone himalayenne, bien entendu, et qui se cantonne aussi en Chine, qui se cantonne en Asie du Sud-Est. Vous avez cet Almasti qui se cantonne dans les montagnes du Caucase, dans l'Asie centrale. Vous avez la même forme que l'Almasti dans certaines zones de l'Asie du Sud-Est, comme le Vietnam ou le Laos. On pourrait aussi parler en Australie. Donc, en Amérique du Sud aussi, on a aussi certains témoignages intéressants. Et là, je m'insurgerai contre les que ce soit les scientifiques, les cryptozoologues, n'importe qui pensent que tout cela, ce sont des fables. Ce ne sont pas des fables. Il existe des êtres à forme bipède qui ne sont pas encore connus.
Michel Ballot, dans ses recherches cryptozoologiques, a souvent été proche des populations locales africaines. En effet, il traque depuis près de 20 ans dans les forêts profondes en Centrafrique le Mokele Mbembe, un animal inconnu extraordinaire qui ressemblerait à une sorte de dinosaure relique, mais qui n'en serait pas un. Lors de ses nombreuses expéditions, il a également entendu souvent parler d'hommes sauvages africains, qui sont nettement plus inquiétants que l'Almasti ou le Barmanou.
Le continent africain, comme on le dit souvent, c'est le continent du mystère. Et c'est vrai que moi, plus particulièrement m'intéressant au continent africain, j'ai pu constater qu'en Afrique centrale en particulier, les populations locales nous parlaient d'hommes sauvages qui ne ressemblent à rien aux chimpanzés ou aux gorilles. Alors, les témoignages que nous avons en ce qui concerne les hommes sauvages africains sont anciens. Ils proviennent, bien entendu, généralement d'Afrique centrale.
Le plus terrible des hommes sauvages africains serait le Kikomba, appelé aussi Dodu par les populations locales. Michel Ballot en a souvent entendu parler lors de ses expéditions, encore assez récemment.
Le Kikomba, il serait plus grand qu'un homme, même dangereux, se tient debout et hurlerait comme les gorilles. Alors, moi, dans mes expéditions personnelles en Afrique centrale, j'ai souvent entendu parler de ce Kikomba, et en particulier dans le sud Cameroun, dans des zones inexplorées. Dans cette zone-là, ils parlent du dodu ou dodé. Ce serait un immense être bipède. Je mesure mes mots parce que on ne peut pas dire si on est en phase d'anthropoïde ou d'hominien. Donc je préfère employer le mot être bipède. Eh bien, dans les forêts inexplorées du sud Cameroun, les populations locales m'ont souvent parlé de cet être bipède qui hurlerait la nuit, qui aurait un comportement différent des gorilles, qui aurait un hurlement différent des gorilles, qui serait effectivement dangereux pour l'homme, alors que le gorille ne l'est pas, sauf cas très particulier. On serait en présence de deux êtres bien différenciés qui vivraient de la République démocratique du Congo jusqu'au sud Cameroun Nord-Gabon, donc sur une zone immense. Et ça, je l'ai vu dans certaines de mes expéditions dans la grande forêt pluviale qui sépare le Congo du Cameroun, et plus particulièrement avec les pygmées Baka avec qui je travaille. Et de nombreux villageois m'ont parlé à l'époque, les anciens, que les femmes effectivement avaient peur d'être prises dans la forêt par certains de ces êtres bipèdes, et en particulier par le dodu dont je vous parlais tout à l'heure. Et cela montre que ce sont des êtres certainement relativement malveillants et agressifs qui pourraient même s'attaquer aux chimpanzés et aux gorilles, et donc, bien entendu, à l'homme. Pourquoi ? Parce que ces êtres, certainement qui sont les mêmes que l'on retrouve dans les forêts inondées de pluviales du sud Cameroun, ces êtres sont de grande taille, les populations n'ont particulièrement peur. Du reste, j'ai ramené moi-même un témoignage intéressant d'un pygmée Baka qui dit « En 2001, donc c'est récent, j'ai vu un dodu de mes propres yeux. C'était juste l'été précédent. Un groupe de chasseurs européens avait émergé de la brousse à l'ouest du village. Ils ont ramené avec eux une étrange créature qui apparaissait être une créature mi-homme, mi-bête. Mais elle était vivante. Plusieurs porteurs la transportaient avec un mât. Ses mains et ses pieds étaient attachés de façon croisée, comme vous verriez comment serait transporté un léopard ou un lion qui a reçu une balle. Toute la population du village est sortie pour voir la créature sur la place. La créature était couverte de poils, mais me semblait assez amicale. Personne, par la suite, n'a su ce qu'était advenu du dodu.
C'est dans le monde entier, en fait, ces histoires.
Oui, il y en a même en Amérique du Sud. N'oublions pas que l'homme sauvage, c'est un grand personnage des légendes et des contes européens.
Hein. Éric Buffetot, paléontologue et chercheur au CNRS.
Au Moyen-Âge et plus tard, hein, c'est un personnage folklorique extrêmement répandu en Europe occidentale et en Europe centrale pendant longtemps. Là aussi, ça conduit à se poser des questions, à se dire, est-ce que c'est pas simplement une espèce d'archétype, figure imaginaire en réalité, mais qu'on retrouve dans les mythologies de tous les peuples. Et il y a certainement une partie de ça, parce que l'homme sauvage, il n'est pas toujours décrit d'une façon, comme un être réaliste et réel. Hein. Dans les récits moyenâgeux, bien souvent, il lui arrive des exploits variés, enfin, qui ne sont pas du tout ceux d'un être réel. Hein. Donc, il y a un côté légendaire dans l'homme sauvage aussi. Alors évidemment, quand on parle du Barmanou ou d'Almastie, hein, on a des gens qui disent que bah, y a cet être qui vit dans les montagnes pas loin de chez eux et qui le présente comme un être de chair et de sang. Donc c'est troublant. Il y a quand même quelque chose d'étrange. Avec le temps qui passe, comment se fait-il qu'on n'arrive pas à recueillir un spécimen qui puisse emporter la conviction? Comment ça se fait qu'on n'ait jamais trouvé un cadavre d'un de ces êtres? Il n'y a même pas besoin d'aller le tuer à coup de fusil. De temps en temps, ils doivent bien mourir, hein, de mort naturelle, d'accident ou d'autres. Mais jamais on n'a trouvé même pas un squelette ou un bout d'os. Mais quand même, qu'on n'ait jamais trouvé quoi que ce soit qui puisse se rapporter à un de ces hommes sauvages dont on parle un peu partout et depuis si longtemps, c'est quand même curieux.
Pour clôturer en beauté cet épisode consacré aux hommes sauvages, qui seraient peut-être nos lointains cousins qui survivent cachés jusqu'à aujourd'hui, laissons la conclusion à Yves Coppens, le célèbre paléo-anthropologue, auteur de la découverte du squelette fossile de Lucie, la célèbre femelle australopithèque qui serait morte il y a plus de 3 millions d'années.
Je voudrais vous dire plusieurs choses. D'abord, en science, encore une fois, il vaut mieux s'attendre à l'inattendu. Comme ça, on a moins de surprises. Ensuite, il y a eu beaucoup de cas d'animaux ou de plantes que l'on croyait disparues et que finalement on a retrouvées. Donc il y a encore des coins de la planète où il peut y avoir des découvertes tout à fait extraordinaires. Alors une chose m'inquiète, c'est qu'il soit si abondant cet homme. On le trouve partout, ou presque.
Moi, j'en ai vu. Ah oui, où? J'ai vu une traînée d'empreintes semblables à des pas d'homme. Seulement plus longues et bien plus larges.
Vous avez vu qui les a faites?
J'ai suivi la piste pendant 1 kilomètre et ça se terminait à un mur de roches nues. C'était juste assez long pour donner une idée de ce que j'étais en train de suivre.
Vous êtes un homme impressionnable, Monsieur McNee.
Ça, c'est le genre d'impression qu'on n'oublie jamais.
Dans le prochain et dernier épisode, nous allons tenter de savoir si la cryptozoologie est une vraie science et si les cryptozoologues vont encore découvrir des créatures mystérieuses et inconnues.
On travaille contre nous. Parce que le jour où une espèce est décrite, elle sort de notre champ d'étude pour entrer dans la zoologie. Et donc, plus on va en découvrir, moins notre existence sera justifiable, quelque part. Donc c'est bien que le monstre du Loch Ness existe, c'est bien que le Bigfoot existe et que le Yeti existe et ne soit pas découvert.
Tous les épisodes de la série consacrée aux créatures mystérieuses sont disponibles sur la page podcast du site lapremière.be ou sur Ovio.